Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard.
On est ensemble jusqu'à 20h. L'info avec Marion Calais. Rebonsoir Marion, à la une. La justice saisie après la découverte de nouveaux tags antisémites dans la capitale.
Oui, au-delà du Juden sur la vitrine d'un restaurant parisien, de nouvelles inscriptions découvertes comme ce Macron, pute des juifs, en anglais, sur une porte de garage du premier arrondissement. Frédéric Potier est le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.
Quand on dit que le président de la République est aux mains des juifs ou subit une influence des juifs, eh bien, c'est tout simplement quelque chose qui renvoie à des vieilles croyances antisémites, donc il faut le dire. Et aussi un portrait de Simone Veil dans le 13e arrondissement qui a été vandalisé. Tout cela montre bien que l'extrême droite ou d'autres groupuscules cherchent, par ce prétexte du mouvement des Gilets jaunes, à véhiculer des idées de haine. Donc il ne faut pas les laisser faire et puis surtout il ne faut pas rester indifférent. On ne peut pas, on ne doit pas rester indifférent à ces messages antisémites, à ces messages de haine qui appellent à la violence des autres, au rejet de l'autre. Donc tout cela est tout simplement inacceptable.
Un des propos recueillis pour Europe 1 par Marguerite Lefebvre à la fac de médecine de l'Université Paris 13. Là, c'est une élève qui dénonçait les blagues et le harcèlement antisémite de certains de ses camarades. Aujourd'hui, la fac a décidé l'exclusion temporaire d'un étudiant, un an dont 2 mois ferme. 7 autres ont été relaxés. Il faut que ça cesse. Le message d'Alain Juppé cet après-midi après de nouvelles violences. Samedi à Bordeaux, en marge de la manifestation des Gilets jaunes, le maire de la ville qui s'inquiète des conséquences de ces débordements.
Ces manifestations deviennent de plus en plus intolérables parce qu'elles génèrent systématiquement des comportements scandaleux. Avec des bris de vitrines, du saccage de mobilier urbain, des graffitis injurieux, bref, toutes sortes de déprédations et de violences physiques qui deviennent inacceptables. Les conséquences, elles sont désastreuses. Pour le budget municipal, c'est-à-dire pour les Bordelaises et les Bordelais, plus €1 million aujourd'hui. Il faut réparer les boîtiers du tramway qui sont brûlés parce qu'il y a des barricades. Il faut refaire les chaussées qu'on venait de rénover, réparer le mobilier urbain. Il faut, et c'est bien normal, rémunérer nos agents pour nettoyer les graffitis, collecter les ordures qui sont accumulées un petit peu partout et pour rendre la ville à peu près acceptable dès le dimanche.
Alain Juppé au micro Europe 1 de Stéphane Place. Bordeaux, où s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises le procès d'un policier. Après une longue bataille judiciaire, il est jugé pour un coup de feu mortel tiré il y a 12 ans lors d'une intervention de nuit à Poitiers face à lui. Un homme en crise qui brandit un couteau, menace et finit par s'enfuir avant d'être retrouvé dans une cour d'immeuble par 4 policiers. C'est là que l'un d'eux a fait feu et pour son avocat, maître Jean-Yves Liénard, il a tiré en état de légitime défense.
On est en train de juger 2 secondes de la vie d'un homme. Il a dû prendre une décision de tuer pour que son collègue ne soit pas tué. Beaucoup, beaucoup de policiers et beaucoup de magistrats estiment que ce jour-là, il a pris la bonne décision. Mais il ne peut pas imaginer que l'homme a jeté son couteau. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas l'imaginer? Parce qu'il l'a toujours vu armé et parce que tout au long de la soirée, pendant plusieurs heures, cet individu dit « je vais planter un flic, un bon flic est un flic mort, je vais vous tuer, je vais vous tuer ». Pour le policier que je défends, il est confronté à un homme armé, forcément. Mon client, il a tiré sur un individu qui allait planter son collègue. Il n'a pas tiré sur un individu qui avait les poings fermés et qui n'était pas armé. Dans sa tête, l'individu était armé. Et donc, dans sa tête, la proportionnalité ne s'oppose pas. Le tir est légitime.
Et cette version, elle est contestée par les proches d'Olivier Massonneau. La victime, maître Patrick Maisonneuve, les représente.
On sait aujourd'hui que monsieur Olivier Massonneau n'a pas d'armes sur lui, quelles qu'elles soient. Et par voie de conséquence, les conditions de légitime défense ne sont pas réunies à partir du moment où, à très courte distance, à partir du moment où il y a quand même un éclairage, même s'il n'est pas extraordinaire, il y a quand même un éclairage, et que M. Massonneau se trouve pratiquement de face à l'accusé, et que l'accusé va ouvrir le feu au niveau du plexus, et qui entraînera d'ailleurs la mort d'Olivier Massonneau. Là, ils sont 4 fonctionnaires, il est seul, ils ont d'autres moyens de le neutraliser, s'il faut le neutraliser, parce que l'histoire ne le dit pas vraiment.
Le verdict dans ce procès à Bordeaux est attendu vendredi. C'est le volet russe de l'affaire Benalla et Mediapart enfonce le clou. Le site d'information en ligne assure désormais que l'ancien chargé de mission de l'Elysée a négocié un contrat de sécurité avec un 2e oligarque russe pour près €1 million et que les premiers versements lui ont été faits sur un compte au Maroc. Braquage ou fuite, un convoyeur de fonds porté disparu depuis ce matin à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. €1 million dans le fourgon, manque à l'appel. C'est pas gagné, Neymar et Cavani blessé, les rôles s'inversent pour le PSG. 8e de finale aller demain de la Ligue des Champions. Les Parisiens face à Manchester United, jusque-là moribond et qui revit depuis le départ de Mourinho. Mais les Red Devils ne crient pas victoire pour autant, à l'image d'Anthony Martial.
Non, on part pas favori. On part pas favori, mais après, c'est sûr qu'avec leurs joueurs absents, c'est bénéfique pour nous. Mais après, on sait qu'ils ont des grands joueurs derrière. Donc voilà, ça va être un très beau match et j'espère qu'on va gagner. C'est beaucoup plus facile pour nous de jouer ce style de jeu que le style qu'on jouait auparavant. Et on le montre bien sur le terrain et j'espère qu'on va continuer comme ça.
Allez, Manchester United, PSG, ce sera à suivre en direct demain soir sur Europe 1. Coup d'envoi 21h. Et puis on rappelle cette médaille d'or pour Alexis Peintureau au Mondiaux de ski à Åre en Suède. Peintureau qui s'impose en super combiné.
Ça va être quelque chose. Hein. Demain, Manchester United, Paris Saint-Germain et une soirée spéciale sur Europe 1 à partir de 20h pour que vous puissiez suivre le match, pour que vous puissiez le vivre avec le service des sports de la rédaction qui sera à Old Trafford, 19h07. Virginie est avec nous en direct ce soir au 39-21. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
Vous êtes dans la Loire. Je rappelle notre débat entre 19h20 et 20h tout à l'heure. Comment financer la dépendance, le quatrième âge? Comment mieux financer la dépendance? J'attends tous vos appels au 39-21. Virginie, vous-même, vous êtes infirmière en EHPAD?
Oui. Non, du
non,
tout.
Pas spécialement, d'accord.
Du tout. Merci de me prendre en ligne déjà.
C'est normal.
Voilà, moi je tenais à réagir. J'ai entendu une personne que vous avez interrogée qui expliquait que justement pour mieux prendre en charge la dépendance, c'est ce que j'en ai résumé brièvement, qu'il fallait motiver le personnel soignant financièrement. Mmh. Moi je pense qu'avant d'injecter des moyens financiers, je pense qu'il faut quand même des moyens humains, tout simplement. Prendre en charge une personne dans un lit d'hôpital, dans un lit de maison de retraite, ça demande du temps, ça demande de la patience, et pour faire son travail correctement, il faut tout simplement du temps. Sauf que quand on travaille en EHPAD, bon, je suis infirmière, je travaille en libéral actuellement, j'ai eu travaillé à l'hôpital, j'ai eu fait des remplacements en tant qu'aide-soignante pendant mes études en EHPAD. Quand vous avez 10, 12 toilettes à faire, et je vous compte que les toilettes, hein, je ne vous compte pas le passage des petits déjeuners, d'installer les patients, de les installer au réfectoire, je vous compte seulement les toilettes. Quand vous avez seulement 10 à 15 minutes grand maximum à leur accorder, alors que c'est des personnes qui sont complètement dépendantes, qui ne se lèvent pas toutes seules, qui ne peuvent pas se laver toutes seules, qui ne peuvent pas manger toutes seules, je suis désolée, vous ne faites pas votre travail correctement.
Des moyens humains, plus de personnel, humains. C'est ce que vous dites Virginie ce soir, alors que l'on sait déjà qu'on sera débordé par cette question de la dépendance dans les années qui viennent. Et ce qui est frappant sur ces problématiques-là, c'est que c'est une question de démographie. Ces personnes qui vont arriver dans le quatrième âge, elles ont eu toute une vie, tout un parcours avant. On a eu le temps de voir venir et on n'a peut-être pas pris à temps les décisions nécessaires. Nous allons parler du quatrième âge, de la dépendance, comment mieux la prendre en charge, comment financer. Est-ce qu'il faut une nouvelle branche de la sécurité sociale? Ce sera une partie de notre débat. 39-21 pour intervenir avec mes invités tout à l'heure. Il est déjà 19h09. Merci Virginie. Merci d'avoir pris la parole au 39-21. À suivre l'invité de 19h avec Sonia Mabrouk, Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il est déjà en studio, on le retrouve dans quelques secondes.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard.
Bonsoir Sonia Mabrouk.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Votre invité Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon au programme La campagne des européennes, le grand débat national et les violences de samedi en samedi.
Bonsoir Alexis Corbière.
Bonsoir.
Des croix gammées sur des boîtes postales avec les portraits de Simone Veil dans le 13e arrondissement de Paris, ça se passe en 2019, ça se passe en France. Quels mots peuvent encore qualifier de tels actes?
Intolérable, abject, inacceptable. Évidemment, je crois qu'il y a une ultra unanimité pour condamner ça. L'antisémitisme est abject. C'est un obscurantisme puissant qui a été criminel durant le XXe siècle. Et évidemment, il faut le condamner de la manière la plus ferme qui soit.
Une enquête est ouverte. Et puis samedi, il y a eu aussi un tag antisémite sur un commerce à Paris. Cette période que nous vivons n'est-elle pas en train de libérer ce qu'il y a de plus rance, de plus obscur dans notre société ?
Tout dépend, qu'est-ce que vous entendez par cette période que nous sommes en train de traverser. Il va de soi qu'il y a une violence dans la société, il va de soi qu'il ne suffit pas comme ça souvent d'avoir eu des condamnations et une pédagogie du racisme et de l'antisémitisme que pour autant le racisme et l'antisémitisme disparaissent. Maintenant, attention, vous ne l'avez pas fait, pas de raccourci comme j'entends parfois, parce que ça a eu lieu samedi et qu'en même temps il y avait des manifestations, il y a parfois un signe égal, il y a parfois une manière d'instrumentaliser l'abjection antisémite pour un peu faire taire ou assimiler. Et au bout d'un moment, ça ne rend pas service à la cause contre l'antisémitisme.
Vous n'avez fait aucun lien avec
Non, mais pas vous. Mais
vous avez raison de préciser avec les Gilets jaunes. Mais je vous pose quand même de manière plus précise ma question. Quand vous regardez, par exemple, Alexis Corbière, les images à Lyon de bagarres rangées entre apparemment des mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche, est-ce que vous dites à ce moment-là, stop,
ça suffit parce que c'est le pire qui est en train de sortir de ce mouvement.
Non, mais le mouvement des Gilets jaunes, ce qu'il dit, est globalement, majoritairement, donc ça veut dire qu'il n'est pas dans sa totalité, mais dans son ensemble, est un mouvement qui est positif, qui est lumineux. C'est un mouvement contre la vie chère.
Positif.
Qui dit, oui, positif.
Samedi, en voyant une image d'un véhicule Vigipirate brûlé.
Ça, c'est la part qui ne l'est pas. C'est la part sombre.
Bon. Il faut la rappeler.
Oui, mais justement, et c'est pour ça qu'il faut avoir un regard, y compris parfois critique, sur les chaînes d'information, l'effet loupe de certaines choses.
Et sur les politiques
aussi. Le mouvement
aussi.
Des Gilets jaunes n'est pas un mouvement dont la finalité, l'expression politique, est de dire on va brûler les véhicules de Vigipirate. Ça n'est pas ça. Ce qu'il dit, c'est nous voulons plus de justice fiscale. Ce qu'il dit, nous voulons un autre partage des richesses. Ce qu'il dit aujourd'hui, c'est nous voulons être mieux citoyens, des droits nouveaux pour les citoyens.
Vous avez raison
un référendum.
De le préciser,
non, mais
c'est
important
mais une
parce
fois
que...
qu'on a dit cela,
non,
et
mais
maintenant,
il faut le dire, parce qu'il m'est arrivé d'être invité à des émissions où on ne parle plus du fond.
On l'a dit. Au bout du 13e samedi, malgré ce que vous dites et des revendications légitimes, cette prise en otage de ce mouvement, ce qu'on voit là, est-ce que vous ne dites pas que c'est inadmissible ? Vous
mais
qui avez porté
dis,
à la fois un gilet jaune et une écharpe tricolore.
Je le dis, et c'est de la violence, c'est inadmissible, évidemment. Ceux qui vont dans ces manifestations pour soit tenir des propos xénophobes, antisémites ou être violents, s'ils ne rendent pas service au mouvement, c'est intolérable et ils doivent être sanctionnés. Mais attention,
qui sont
une fois
ceux-là
de plus, mais
l'extrême gauche, l'extrême droite.
Des groupuscules, mais ça
oui,
existe.
Mais enfin,
moi, hier
moment.
À la manifestation, j'y étais samedi, il y avait des gens, c'était de l'Action française, qui m'ont tenu des propos intolérables. Je parlais à un moment donné à une dame qui portait le foulard, ça nous a valu des insultes, etc. Mais il y a eu aussi des gilets jaunes qui les ont fait partir. Bon, bien sûr qu'il y a de la confusion là-dedans. La caractéristique de ce mouvement est un mouvement qui met à distance les organisations traditionnelles, qui naît sur les réseaux sociaux. C'est une forme moderne de protestation qui déstabilise ceux qui voudraient parfois en revenir aux formes traditionnelles d'action, les partis, les syndicats. C'est pas ça. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'on peut y voir la faiblesse que ça porte, il faut aussi voir le grand côté, ce grand torrent de protestation.
Vous n'êtes pas en train de le mythifier. Vous n'êtes pas en train de
non,
le sublimer.
Je suis en train d'abord,
vous n'êtes pas
je crois...
en train de déformer ce qui se passe.
Mais précisément parce que je ne veux pas que ce soit la part sombre qui l'emporte, je dis répondons à la part lumineuse. Parce que si on ne voit que la part sombre et on dit à cette grande protestation contre la vie chère, on dit vous êtes des sots, des nigauds, des antisémites et des racistes, on ne comprend pas ce qu'il y a de profond dans le pays et qui s'était déjà exprimé lors de l'élection
sans
présidentielle.
Sans dire des mots comme ça, est-ce qu'on peut quand même critiquer Alexis Corbière? Est-ce que par exemple le comédien François Berléand, qui vient d'en faire la meilleure expérience, quand avec son coup de gueule il dit qu'il en a ras-le-bol, il se fait insulter sur les réseaux sociaux?
Mais c'est lui qui commence, comme dirait l'autre. Quand vous...
Pourquoi on ne peut pas dire
François Berléand est
société?
Un artiste magnifique, d'accord, mais il fait partie de ces gens, et tant mieux pour lui, il ne l'a pas volé quelque part, qui vit confortablement et qui sans doute, je ne connais pas le détail, a des revenus confortables. Je crois, mais après c'est une question de dignité. On n'est pas obligé de dire que ça fait chier les gilets jaunes, qui sont souvent des gens qui sont parmi...
Et si on le pense, on ne peut pas le dire?
Je pense qu'on doit plutôt s'interroger pour quelles raisons des gens, pour quelles raisons ils en sont là, pour quelles raisons. Peut-être que lui ne le comprend pas en raison du confort matériel, et tant mieux pour lui, mais on doit avoir une certaine empathie républicaine, j'ai envie de dire, qui s'interroge de pourquoi un peuple est en colère.
Vous avez sans doute un confort matériel, mais vous les comprenez. On peut avoir un confort matériel et comprendre
notre
partie de la
société. Vous avez tout dit. Bon. Donc M. Berléand, manifestement, lui, il ne le comprend pas. Alors, moi, attendez, je ne suis pas pour l'insulter. En plus, je l'aime bien comme acteur. Et bon, mais c'est une sacrée tête de bois. Par ailleurs, il a des engagements politiques, souvent, je crois, par le passé. Mais moi, je pense, attention, dans cette société, quand il y a toute cette violence, cette colère, si on y va quelque part la fleur au fusil, qu'on dit vous me faites chier, faut pas s'étonner par la suite à ce qu'on le ramasse des insultes. Mais vous savez, des insultes, moi j'en prends. Non, mais bon, faut pas s'étonner. Ou alors on est naïf, vous savez, moi regardez mon compte Twitter, le nombre d'insultes que je reçois, mais bien entendu, mais de la même façon que vous ne m'interrogez pas sur les centaines de messages d'insultes que je reçois. Et quelque part, il faut s'épaissir le cuir, même s'il faut le connaître. Mais pardon Sonia Marouk, c'est pas ça le sujet, même si vous avez raison.
Le sujet
c'est
le
dans ce pays, il y a trop d'inégalités. Des gens veulent annoncer de cette monarchie présidentielle qui juge beaucoup de pouvoir se concentre sur le président de la République. On a un président qui ne répond pas, qui étale le beurre, si je puis dire, dans des débats sans fin, avec un flot de paroles. On est quasiment, c'est à la cubaine, ça en finit plus. On a Macron TV, 6-7 heures.
Toujours un procès d'intention? Attendez de voir ce qui sort de ce grand débat national.
Non, c'est pas un procès d'intention, c'est que je le prends au sérieux. Si on donne le pouvoir de délibération au peuple, on lui donne le pouvoir de décision. C'est ça la République. On dit pas aux gens parler, et après, moi tout seul, je retiendrai de votre parole certaines choses. Ça ne peut pas marcher. L'intuition de donner la parole est bonne, mais à la condition que ce soit les mêmes qui parlent, qui après décident. Sinon, vous atrophiez le débat. Et de ce grand débat, vous en faites un grand blabla. C'est-à-dire qu'on a bien vu, c'est lassant, et j'ai même observé que l'audience chute. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu pendant 6 heures le président de la République, puis la fois suivante pendant 7 heures, puis pendant 5 heures, qui parle, qui ne dit même pas des choses là-dedans. C'est-à-dire qu'il ne met même pas dans le débat, à ma connaissance, des propositions, des éléments de réponse. Au bout d'un moment, on a un côté, on a envie de dire,
pas tout seul, hein, Alexis. On a l'impression que c'est un monologue sans fin.
Ah ben oui, c'est un monologue. Non, mais c'est pas un dialogue, c'est un monologue.
Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de questions.
Non, vous l'avez vu.
Il n'y a pas d'interpellation.
Non, vous l'avez vu, c'est des questions extrêmement formatées. Vous savez, j'ai des élus, des amis qui y ont participé. C'est important de le rappeler. Il faut poser la question d'abord au préfet, qui retient la question, qui l'a choisie. Tout le monde ne prend pas la parole comme ça.
Ah, ça y est. Les questions sont toutes écrites.
Oui, bien sûr, le président de la République.
Toutes les questions sont écrites.
Le président de la République.
Vous l'affirmez.
Oui, j'affirme notamment, ça a été raconté par plusieurs élus, vous dites la question que vous allez poser, vous le donnez, notamment, je sais dans le Sud, c'était le préfet qui s'occupait de ça, et votre question est retenue ou pas?
Non,
c'est pas vrai ce que je dis.
Alexis Corbière,
on a vérifié, moi je ne crois pas qu'on lève la main et qu'on parle comme ça au président de la République.
Il y a eu des élus de l'opposition qui ont pu poser leurs questions, mais on leur posera également la question.
Mais il me semble que les questions étaient déjà annoncées.
C'est important, Alexis Corbière. Pour le manifestant très grièvement blessé à la main, une enquête judiciaire a été ouverte. Le ministre de l'Intérieur rappelle le contexte tendu. Ça s'est passé devant l'Assemblée nationale samedi avec, dit-il, je cite ces mots, une foule hostile et ce manifestant qui a voulu prendre la grenade avec la main. Il a voulu la prendre avec la main.
Et alors, ça mérite une main arrachée? Moi, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer sur la banalisation, quel que soit ce qu'a fait cet homme. Même si cet homme a été menaçant ou j'en sais rien. Mais à ma connaissance, il n'avait pas une arme à feu, il n'était pas en train de mettre en danger la vie d'un fonctionnaire de police. Il n'est pas tolérable qu'on utilise un matériel singulier en Europe, notamment cette grenade GLI F4, qui comprend 25 grammes de TNT, dont tout le monde dit qu'elle est dangereuse. Vous mettez ça dans une manifestation.
Pourquoi ne pas attendre les résultats de l'enquête? Pourquoi condamner directement les forces de l'ordre?
Parce que, madame, j'ai observé que depuis le début de cette manifestation, il y a un phénomène sans précédent dans l'histoire des mouvements sociaux. On en est aujourd'hui à 17 œils qui ont été éborgnés, à 5 mains arrachées, à plus d'une centaine de blessés hospitalisés, à 46 journalistes blessés.
C'est terrible ce que vous dites. Décompte toujours d'un côté? Pourquoi ne pas parler des forces de l'ordre qui sont également menacées? Pourquoi pas parler de ce coup de pied que vous avez vu, qui a été reçu par un gendarme?
Il est intolérable. Mais comprenez bien, le matériel qui est mis entre les mains des fonctionnaires de police, notamment, moi, j'ai déposé un projet de loi pour l'interdire. Écoutez ce que dit le rapporteur, le défenseur des droits, M. Toubon, c'est pas un insoumis, ce que disent deux rapports de l'IGPN, c'est un matériel dangereux. Un flashball, sachez que dans la notice de fabrication, la précision ne peut pas être plus de 40 cm. C'est-à-dire, quelqu'un qui tire ne peut pas, évidemment, il peut viser le buste ou le bassin, il peut toucher la tête. Est-ce que vous savez aussi que les forces de l'ordre, les policiers qui font le travail, ne sont pas des CRS qui sont formés pour ça? On a mis en place des brigades qui s'appellent les DAR, dans lesquelles les gens de la BAC, qui ne sont pas formés pour le maintien de l'ordre, interviennent. Ce qui amène à ce que le plus grand nombre de tirs de flashball n'est pas tiré par des CRS.
À quoi ça sert de demander la démission du ministre de l'Intérieur?
Parce que c'est son bilan. Ce n'est pas le bilan des fonctionnaires de police.
C'est politicien, Alexis Corbière. Ça ne changera rien à la stratégie de maintien de l'ordre.
Non, je suis pour la responsabilité en politique. Quand vous êtes ministre, vous avez l'honneur d'être le ministre de l'Intérieur d'un grand pays. C'est trop facile de s'en prendre aux forces de l'ordre. Le matériel qui est entre leurs mains est dangereux. Ça fait des semaines que je le répète. Ça fait des semaines que des associations le répètent. Semaine après semaine, Monsieur Castaner a eu le mauvais goût d'envoyer un tweet seulement pour dénoncer, et il n'avait pas tort de ce point de vue-là, qu'une voiture Vigipirate avait été brûlée. J'observe dans Le Point d'ailleurs que maintenant il y a une enquête qui montre que la personne qui a brûlé cette voiture était suivie par les forces de l'ordre depuis 14 heures. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été interpellé immédiatement. Et pas un tweet, parce qu'un homme avait une main arrachée. Mais il y a un minimum, quand bien même cet homme qui aurait la main arrachée serait un homme, comment dirais-je, un black bloc ou ce que vous voulez. Rien ne justifie.
Mais je note
rien
que
ne
vous
justifie.
Dénoncez les violences des deux côtés.
Mais
également,
je l'ai toujours dénoncé. Les forces de l'ordre ne doivent pas être agressées. Oui, mais on le sait. La question qui m'intéresse, c'est pour quelle raison nous sommes en France en train de demander à nos fonctionnaires de police d'utiliser un matériel qui est jugé partout en Europe dangereux. De ce point de vue-là, Monsieur Castaner est responsable, et comme il est plutôt irresponsable, je lui dis, Monsieur Castaner, devant un tel bilan, laissez la place.
Merci Alexis Corbière d'avoir été l'invité d'Europe 1.
Merci à vous.
Merci Sonia Mabrouk, 19h21.
17h, 20h. Mathieu Béliard sur Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1, le rappel de l'info avec Marion Calais.
Le jeune homme soupçonné d'avoir incendié un véhicule de l'opération Sentinelle ce week-end à Paris sera présenté demain à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen. C'est le parquet qui l'annonce ce soir. Droit de retrait exercé par les enseignants d'un lycée du 14e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, vendredi, une de leurs collègues, prof de maths, a été agressée à la bombe lacrymogène par une personne cagoulée. Elle a dû être hospitalisée. La Maison-Blanche et le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump fustigent 40 année d'échec, référence au 40e anniversaire aujourd'hui de la révolution islamique en Iran, le pays devenu ennemi numéro 1 de Washington au Moyen-Orient.
Merci beaucoup Marion Calais.